France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Vous connaissez peut-être ces enseignes Action, Normal, Stockomanie, BM, des discounters non alimentaires qui proposent des produits à bas prix qui séduisent de plus en plus de consommateurs. Alors comment expliquer ce succès? Ces enseignes proposent-elles des produits de qualité? À y regarder de plus près, peut-on parler vraiment de bonnes affaires? Des prix bas certes, mais à quel prix? Notamment sur les conditions de travail dans ces magasins. Que raconte ce succès sur notre société de consommation? Éléments de réponse avec nos expertes et nos experts. N'hésitez pas à nous appeler, à témoigner au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Que vous soyez client ou salarié de ces enseignes, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas également à nous laisser des notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Alors là, il n'y a que des dingueries.
Je vous ai une addiction au petit prix.
Vous avez donc le gel douche à 1 euro.
C'est devenu l'enseigne préférée des Français. Chaque semaine, au moins un magasin Action ouvre ses portes sur notre territoire. Créé en 1993 aux Pays-Bas, le discounter non alimentaire à la croissance la plus rapide d'Europe se déploie aujourd'hui dans 12 pays. Objectif affiché: redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs.
Pourquoi vous aimez ce magasin?
Pour les arrivages, pour la déco.
Le prix, très très raisonnable.
Pour 1 euro, on peut faire plaisir à nos enfants et voilà.
Extrait de complément d'enquête diffusé le 12 décembre dernier sur France 2. Bonjour Nathalie Gros.
Bonjour
Ali. Vous êtes journaliste et vous avez co-réalisé cette enquête pour complément d'enquête disponible sur la plateforme France.tv et donc consacrée à la chaîne de magasins Action. Vous y alliez, vous, dans ces magasins avant de faire cette enquête?
Alors ça m'arrivait d'y aller, mais plutôt quand je rentrais voir mes parents, c'est-à-dire près de Metz. C'est vrai qu'à Paris, moi qui habite Paris, on n'a pas forcément l'habitude, c'est pas forcément un réflexe parce qu'on n'en a pas tous en bas de chez soi. Et c'est vrai que le temps étant précieux, vous allez voir d'ailleurs que pour Action, c'est quelque chose de très important le temps. Donc j'y allais pas quotidiennement, mais je connaissais et c'est vrai que j'avais eu cet effet waouh qui est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous franchissez les portes de ce magasin, il se passe un truc, vous êtes dans un vortex et pendant quelques minutes, vous ne comprenez pas ce qui se passe.
Et on va essayer de comprendre ce vortex. Bonjour Benoît Elbrun.
Bonjour Ali.
Professeur à l'ESCP, co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de la Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez récemment publié « Ce que nous cache le mythe du pouvoir d'achat » aux éditions de l'Aube. Bonjour Lionel Mauguin.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et chef de la rubrique Argent à 60 millions de consommateurs. À la une ce mois-ci, dites-nous le titre.
C'est les poils adhésifs. Où on a trouvé des substances indésirables. Ah. Et puis, une grosse enquête aussi sur les galères des assurés quand ils ont un sinistre habitation.
Et heureusement que vous êtes là, 60 millions de consommateurs. Bonjour Yves Puget.
Oui, bonjour.
Allez. Honorable directeur de la rédaction de LSA, le magazine des professionnels de la consommation qui se porte plutôt bien. Hein.
Oui, ça, ouais, ça va
le tirage
bien. Le tirage, on est à peu près à 16 000 abonnés et beaucoup de gens sur Internet.
Et vous êtes l'un des plus fins connaisseurs du secteur de la distribution. Alors, Action, Stockomanie, Normal, BM, ce sont des discounters. Mais c'est quoi un discounter, Yves Puget? Et quelle est la spécificité de ce type de magasin par rapport à Intermarché, Leclerc, Carrefour ou Système U?
Alors, ma réponse va vous étonner. Je ne sais plus ce que c'est un discounter. Ouais. C'est-à-dire, le discount, tout le monde en fait. À l'origine, Édouard Leclerc faisait du discount. Et je pense qu'encore, l'enseigne Leclerc, qui est l'enseigne la moins chère de France, j'y peux rien, c'est pas pour leur faire de la pub, ça reste du discount. Après, c'est quoi le discount alimentaire? Dans la profession, les professionnels adorent mettre des catégories, ranger les enseignes dans des boîtes. Alors, le discount alimentaire, aujourd'hui, c'est à peu près 4000 magasins, c'est 4,1 millions de mètres carrés selon la base de données LSA Expert. et c'est 35 enseignes. Mais lorsque vous voyez un Jiffy par rapport à un Action, ça n'a rien à voir, finalement.
Là, on parle de, quand on parle de Stockomanie, d'Action, de Normal, ce sont des discounters plutôt non alimentaires. Voilà. Même si on retrouve dans ces magasins de l'alimentaire, mais ce n'est pas du frais.
Mes chiffres, c'est uniquement les discounts non alimentaires. Je ne prends pas en compte la grande distribution. Donc, il y a 35 enseignes, il y a des enseignes très connues, mais il y a des concepts très, très différents. À chaque fois, il y a une majorité de non-alimentaires. Action et Emma sont un petit peu plus différents, avec un peu plus de ce qu'on appelle des produits de grande consommation. Ce qu'on appelle les produits de grande consommation, c'est l'alimentaire, l'hygiène beauté et l'entretien. Donc, dans un même secteur, vous avez des concepts très différents.
Stockomanie, par exemple, c'est quoi le concept de Stockomanie ?
Stockomanie, c'est plus du non-alimentaire, avec des prix bas et des, surtout des coûts à l'achat.
Et Normal ?
Normal, il y a un petit peu plus de PGC, de produits de grande consommation.
Lionel Mauguin, sur ce commerce, c'est sur ces nouveaux bazars, qu'est-ce que vous pouvez en dire du point de vue de 60 millions de consommateurs ?
On s'y intéresse beaucoup. On a vu effectivement le phénomène incroyable d'Action. Sur Paris, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça fait 8 ans qu'ils ouvrent 1 à 2 magasins par semaine. Donc là, ils vont se calmer apparemment en 2025, mais c'est phénoménal. Il y a 1 Français sur 2 qui vont chez Action. Vous avez la queue devant les magasins quand il y a les arrivages.
Le mercredi.
Et donc, voilà, Action, ils achètent à bas prix, généralement dans le sud-est asiatique. Ils travaillent aussi avec beaucoup de grandes marques, c'est aussi ça que les gens apprécient. Avec des formats qui sont différents. Vous avez des bouteilles de Coca-Cola qui font 2 litres, 3 litres. Donc, il faut bien regarder le prix au litre parce que ce n'est pas forcément moins cher chez Action. Ouais. Et puis, vous avez des marques de distributeurs. Ils ont quand même plusieurs dizaines de marques de distributeurs. Ce qui est bien chez Action, c'est que ce n'est pas cher. On sait ce qu'on va y trouver, puisqu'il y a 6000 références, souvent les mêmes. Il y a des arrivages. Et ça fait plaisir à la famille et vous en sortez pour pas... Franchement, les consommateurs qu'on a interrogés sont très satisfaits de ce qu'ils achètent, même s'ils ont conscience que c'est quand même pas un produit qui va durer.
Et on y reviendra évidemment. Or, Action, on l'a dit, c'est un discounter créé aux Pays-Bas en 1993. La France, c'est le plus gros marché d'Action et c'est l'enseigne préférée des Français, tous secteurs confondus, selon une étude réalisée par EY Parthenon, auprès de 10 000 consommateurs représentatifs de la société française. Et dans ce top 5 des enseignes préférées, on retrouve donc Action, Decathlon, Leroy Merlin, Picard, Ikea. Et selon ce même cabinet EY Parthenon, qui a réalisé donc cette étude, 84% des acheteurs d'objets du quotidien vont chez Action. Ce taux de pénétration, on appelle ça comme ça, est le plus élevé, tout secteur confondu, après Decathlon. Chez Decathlon, 87% des acheteurs d'articles de sport vont chez Decathlon. Et McDonald's, deuxième, 85% des clients de restauration rapide vont chez McDonald's. Donc ça veut donc dire qu'Action est très, très, très présent dans la vie des Français, Lionel Mauguin.
Oui, absolument. Vous avez raison. Et ça progresse chaque année. J'ai encore récupéré pour cette émission les chiffres de Nielsen IQ. Il y a encore 3 points de progression en 2024. Et effectivement, le succès est phénoménal. Peut-être même, là on va parler d'autres enseignes, mais c'est au détriment d'autres enseignes qui ont plus de mal.
Alors, Jiffy, par exemple, qui a beaucoup de mal en ce moment.
Jiffy, Stockomanie, qui a l'air d'avoir un peu de difficultés. Et puis, alors, une enseigne dont on ne parle pas beaucoup, c'est Nose. Nose, alors, c'est du déstockage. Un peu Stockomanie, Nose, ce sont des déstockages. Et la difficulté des consommateurs, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. On va y trouver ce qui est déstocké. Et sur le déstockage, les grandes surfaces ont maintenant des rayons date limite courte qui atterrissaient chez Nose autrefois, mais aujourd'hui, les déstockeurs, comme on appelle, ont du mal à trouver des...
Qu'on comprenne bien les choses, Action, c'est un déstockeur ou pas ?
Non.
Il y a du déstockage, mais ce n'est pas que du déstockage. Effectivement, la différence est importante. Il y a des enseignes qui ne font que des coûts à l'achat. Donc, ils récupèrent des stocks invendus. Ou alors même, à une époque, Action allait voir un industriel qui n'allait pas bien et lui disait, finalement, pour vos petits petits verres qui ne coûtent pas très cher. Vous avez des difficultés financières. Nous, on va vous assurer des volumes d'achat en vous en prenant tant, mais à tel prix, un prix très bas.
Votre regard, Benoît Lebrun, sur le succès de ces enseignes, de ces discounters non alimentaires.
Je pense qu'il y a deux facteurs à prendre en compte. Il y a un facteur culturel, un facteur idéologique. Le facteur culturel, en fait, il faut se rappeler que tous ces discounters viennent des pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire de culture protestante. Et donc, l'idée, c'est que dans la culture protestante, on va à l'essentiel, pas de frivolité, et on achète de l'usage. Donc là, il y a une vraie question qui se pose autour de la société de consommation. Est-ce qu'on achète de la fonctionnalité de l'usage ou est-ce que j'achète de l'imaginaire et donc je paye pour de la publicité? Et donc, c'est pour ça qu'il y avait deux modèles. Il y avait le hard discount et le soft discount. Le hard discount, ça voulait dire j'achète le moins cher dans la catégorie. Donc ça, ça pose la question de savoir jusqu'où je peux descendre le prix en respectant les conditions de travail. On voit bien avec le crash de Decathlon la semaine dernière que quand j'achète une paire de baskets à 13 euros, ça veut dire que j'ai des esclaves en amont. Ça, c'est quelque chose qui est invisible. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que le capitalisme s'est nourri d'un système d'esclaves et qui continue à se nourrir d'un système d'esclaves. Et en fait, l'enquête sur les clients de Decathlon montre que les gens le savent parfaitement. Ils n'ont surtout pas envie qu'on leur rappelle. Donc, ça, c'est le hard discount. Après, le soft discount, c'est le modèle dans lequel je vais acheter des prix de marque, mais moins cher, parce que des volumes, des déstockages, etc. Et après, il y a une deuxième dimension qui est idéologique, donc c'est la question du pouvoir d'achat, c'est l'hystérisation autour du prix, et donc cette idée que finalement, les distributeurs construisent une rhétorique de la victimisation du consommateur, en disant finalement, les marques t'arnaquent, mais moi j'ai des solutions pour toi, et le problème c'est quand ce discours est récupéré par les politiques et que ça fait le lit des mouvements populistes. Ça, c'est problématique.
Yves Puget.
Alors deux remarques. La première, je ne peux pas m'en empêcher, le capitalisme aussi nourrit des entreprises françaises avec des emplois français. Bon, ceci étant dit, il y a quand même une double intuition. C'est, on pense que le pouvoir d'achat, la problématique qui est réelle, le pouvoir d'achat va pousser les consommateurs vers les enseignes les moins chères. Mais il faut se méfier parce qu'il y a la contre-intuition. C'est-à-dire, lorsque vous avez un problème de pouvoir d'achat, vous allez vers l'essentiel. Donc si c'est acheter chez Action une lessive, vous en avez besoin, vous allez l'acheter. Mais vous allez aussi réduire ce qui n'est pas essentiel. Donc beaucoup de magasins hard discount non alimentaires ou discount non alimentaires sont à la peine. Pourquoi ? Parce que là, les Français n'y vont plus parce qu'ils sont obligés de n'acheter que ce qui est essentiel. Donc, on va dire l'hygiène beauté, l'alimentaire.
Ce qui est tout l'inverse du modèle d'Action. Puisque Action, le principe, quand on va chez Action, c'est qu'on y va soi-disant, on essaye de se convaincre, pour l'essentiel, mais on adore ressortir avec toutes ces petites choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Et ça, c'est ce qu'ils appellent chez Action, ils ont théorisé ça, c'est la chasse au trésor.
La chasse au trésor. Et c'est une chasse au trésor comparable à la chasse au trésor quand on va dans une brocante.
Tout à fait. Oui. Et sachez même que dans leur guide, donc nous on s'est procuré les guides de formation des employés, et donc quasiment dès les premières pages, pour tout ce qui est de la disposition du magasin, ils ont des présentoirs qu'ils qualifient de présentoir à achat compulsif.
Mais il faut pas oublier des vieux principes du commerce. Le premier, c'est faites des prix bas, les pauvres en ont besoin et les riches adorent ça. Ça, c'est une vieille phrase. Et la deuxième chose, dans un magasin, si chaque client rajoute un produit qu'il n'avait pas prévu d'acheter, c'est ça qui assure la marge. Donc effectivement, tout est fait, et là c'est la force du marketing, et effectivement Action ou Emma sont très bien faits pour ça.
Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est que ça remet en cause en fait la vision qu'on avait de la consommation ostentatoire, en pensant qu'il n'y avait que les classes aisées qui montraient leur statut et qui utilisaient le prestige en fait, dans la dimension symbolique de la consommation. Ce que montre Normal et Action, c'est que chacun a besoin de montrer du prestige en achetant de l'inutile. Donc en fait, l'inutile a une très forte utilité parce qu'il permet de ne pas être réduit à l'état de nécessité.
Lionel Mauguin.
Oui, alors, il y a quand même un problème de pouvoir d'achat. Les Français vont dans ces magasins parce que c'est pas cher. Et je rejoins Yves Puget. Action fait du commerce. Et peut-être que en France, les grandes surfaces alimentaires ont un peu oublié parfois de faire du commerce. Ils achètent des produits attendus par les consommateurs, ils le vendent à bas prix. Je rappelle quand même que on travaille avec Nielsen IQ. L'an dernier, les Français, les familles ont dépensé 329 euros de plus pour acheter les mêmes choses, avec 47 articles de moins dans leur chariot. Donc on en est là. Pour s'en sortir, il faut faire 4-5 magasins, dont Action. Mmh. Et donc, y a un vrai problème. 76% des gens sont très inquiets sur, quand ils font leurs courses, sur le, pas simplement les courses, évidemment, le prix de l'électricité, etc. Mmh. Donc, c'est une préoccupation majeure. Et si on peut allier à la fois la recherche de petits prix, mmh. puis en même temps le plaisir de faire plaisir aux enfants en allant chez Action. Après, effectivement, ça pose des tas de problèmes. Mais en tout état de cause, voilà pourquoi Action a du succès. C'est que ça allie à la fois le plaisir et puis on ne vous dit pas que vous êtes dans un magasin de pauvres.
Et on reviendra tout à l'heure sur le revers de la médaille, notamment chez Action. Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour Ali.
Fondateur de Maison Casselli, un cabinet qui analyse les transformations de la société. Vous êtes le co-auteur avec Jérôme Fourquet du best-seller La France sous nos yeux. Au menu de votre chronique, les Français, mode d'emploi.
Moi aussi, je vais vous parler d'un commerce populaire. Je vais parler des bars tabac, bars PMU, Balto et autres Braza. Et je vais essayer de vous convaincre qu'ils peuvent rester pertinents à l'heure de la coffee shopisation de la France.
Au nom de toute l'équipe, j'en profite pour féliciter notre chroniqueur du jeudi, hein, Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, qui est devenu papa le week-end dernier. Bienvenue à Pablo et félicitations à la maman également.
Grand bien vous fasse.
Action ! C'est quoi la sorcellerie avec ce magasin ? Là-bas, si tu vas pour acheter une tasse, tu ressors avec de la peinture, de la colle, la corne, du fil, des chips, des petites balles, un plateau, 4 tupperwares, la pâte à modeler, du papier peint, une selle de vélo, alors que t'as même pas de vélo.
Sur France Inter.
Et on continue à explorer le succès des discounters non alimentaires comme Action, BM, Emma, Normal, Stockomanie. N'hésitez pas à nous appeler et à témoigner au 01 45 24 7000, que vous soyez client ou salarié de ces enseignes. Nathalie Gros, je rappelle que vous êtes journaliste et on reviendra tout à l'heure sur les conditions de travail chez Action, dans le complément d'enquête que vous avez réalisé sur ce sujet. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a ce plaisir de la chasse au trésor, hein, comme dans une brocante, le plaisir de dénicher des choses plaisantes, inattendues, à petit prix. On retrouve dans ces magasins des produits de ménage, d'hygiène, de décoration, de rangement, d'électronique. Benoît Helbrun, professeur à l'ESCP, sur ce plaisir de la brocante, de la chasse au trésor.
Bah justement, ça montre qu'il faut sortir d'un discours sur la nécessité, sur le besoin, parce qu'on n'est pas capable de délimiter les frontières du nécessaire. Et en fait, je pense que la plus belle métaphore qu'on a trouvée pour parler de la consommation, c'est la cueillette et la chasse. C'est-à-dire qu'on est dans un verger, ou alors on va effectivement aller chercher. Alors, c'est pas forcément la bonne affaire, hein, c'est la nouveauté. Donc, c'est ce désir de curiosité. Hein, c'est l'idée qu'en fait, la société de consommation est romantique. Et qu'est-ce que c'est que le romantisme ? C'est la recherche de la nouveauté en permanence. Donc, il faut être stimulé sensoriellement, voilà, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles sensations. Et le plaisir, en fait, c'est une dimension qui est aussi importante que la fonctionnalité, si ce n'est plus.
Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA.
Oui, le plaisir, ça marche bien et c'est plutôt une bonne nouvelle. Les Français ont envie de se faire plaisir. Alors, malheureusement, avec la question du pouvoir d'achat, c'est pour l'instant plutôt des petits plaisirs. Donc, effectivement, tout ce qui est confiserie marche plutôt bien. Tout ce qui tourne autour de l'apéritif, à boire avec modération, marche vraiment bien. Et on voit ça, l'assortiment explosé dans les rayons. Et le plaisir, c'est aussi l'innovation. Et on a vu, on va dire, une régression du nombre d'innovations ces deux dernières années. C'est en train de reprendre. Et dès que les secteurs innovent, ça marche, parce que les Français adorent finalement l'innovation.
Lionel Mauguin, journaliste et chef de rubrique à 60 millions de consommateurs, sur ce plaisir.
Oui, alors oui, le plaisir, mais enfin, désolé, mais je vais rester quand même sur les besoins, le pouvoir d'achat quand même.
Vous êtes là pour ça, Lionel Mauguin.
Il y a quand même une question de pouvoir d'achat. Dans les grandes surfaces, on a remarqué qu'il y avait moins de promotions. Et en plus, elles sont moins généreuses. Par conséquent, pour des questions
c'est la loi, oui.
Légales, mais aussi le tempérament des distributeurs qui n'ont pas souhaité, selon nous, renier sur leur marge depuis cette flambée inflationniste de 20% depuis 3 ans quand même. Donc forcément, les gens, ils essayent de trouver des solutions. Et donc, Action, puisque c'est quand même Action qui domine ce
largement.
Secteur, et bon, il y a Lidl aussi, mais Action remplit un certain nombre de ces besoins-là, c'est-à-dire que vous allez trouver des produits de grande consommation, essentiellement hygiène cosmétique, pas cher, et d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal, les grandes surfaces concurrentes, sur ces saviez-vous que Action est un des premiers vendeurs de chaussures en France? Et donc voilà, sur ces produits non alimentaires, parce que l'alimentaire, il n'y a pas de produits frais chez Action, parce que ça nécessite toute une logistique qu'ils ne veulent pas. Il n'y a pas de produits électroménagers.
Dans le non alimentaire, on va retrouver par exemple des bouteilles de soda, de la junk food, des paquets de gâteaux, des bonbons, etc.
On trouve en vente caisse en général.
Exactement. Voilà. Nathalie Gros, l'une des clientes accro au magasin Action que vous avez interrogée, vous dit qu'elle n'a pas l'impression de dépenser de l'argent, mais de faire des économies.
Ah oui, c'est là la force de ces petits prix. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de frais chez Action. Il n'y a pas de produits de gros électroménagers parce qu'il n'y a pas de service après-vente. Il n'y a pas de frais pour ne pas avoir à gérer une chaîne du froid. Et tout ça va dans le sens, pour épater les clients, la stratégie d'Action, c'est vraiment d'économiser, de gratter le moindre centime. Et donc, tout a été extrêmement bien pensé pour que justement, ils étaient très fiers de nous le montrer, puisqu'ils nous ont ouvert les portes pour l'enquête qu'on a réalisée pour complément d'enquête. Et ils étaient très fiers de nous montrer que eux, sur leurs étiquettes, c'est pas écrit 3,99€, non, c'est écrit 3,47€. Et cette chasse aux centimes, c'est ce qui fait que c'est effectivement cette ADN du discount qui vient du Nord, qui vient même de la région Frisone, qui est une des régions du berceau du capitalisme, qui se retrouve dans toute cette logistique qui est extraordinaire et qui fait effectivement, enfin qui est extraordinaire, qui a été extrêmement bien pensée. Et on verra qu'il y a effectivement un revers de la médaille. Mais oui, les clients passent leur temps à comparer les prix. C'est-à-dire qu'ils vont se dire qu'ils économisent parce qu'ils auraient dépensé tant ailleurs d'après eux.
Et sachez qu'un quart des produits chez Action coûte moins de 1 euro.
Voilà, justement. Alors, ça, je pense que c'est très important parce qu'il y a l'effet du prix psychologique, mais surtout, il y a un effet de manipulation qui est ce qu'on appelle la fragmentation du prix. C'est-à-dire que quand on achète des babioles à 1, 2, 3 euros, on en achète 5. On a l'impression qu'on n'a pas payé autant que si on avait acheté quelque chose à 15 euros. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver même chez Ikea. Par exemple, avant les caisses, on a des produits à 3-4 euros parce que les gens se disent, ça c'est rien, mais à la fin du compte, ça fait 25 euros. Donc la fragmentation du prix plus le fait de mettre non pas des prix à 99, mais de dire c'est le vrai prix. Donc on est dans un discours de vérité. Ça marche.
Yves Puget.
Oui, et dans le commerce, il y a deux fonctions. Il y a vendre, ce que c'est très bien faire Action et d'autres enseignes, mais il y a aussi acheter. Et acheter, moi je note par exemple que sont les négociations commerciales actuellement, encore 15 jours, les distributeurs français sont souvent critiqués de temps en temps à juste titre parce qu'ils ne respectent pas la loi française en achetant en Belgique ou en Espagne, mais ils peuvent aussi respecter la loi française en achetant en Belgique ou en Espagne. Mais surtout, moi je note que des Lidl ou que des Action, eux, achètent de toute façon à un niveau européen. Et c'est ça aussi qui permet de vendre moins cher. Et là, personne ne les critique. Je trouve ça assez étrange. C'est-à-dire qu'il est de bon ton de critiquer des enseignes françaises parce qu'elles achètent à un niveau européen, mais personne ne dit rien sur les achats européens des enseignes étrangères.
Et puis, ce qui attire les clients et qui fait en grande partie le succès d'Action, puisque c'est l'enseigne préférée des Français, c'est que chaque semaine, 150 à 200 nouveaux produits sont proposés aux clients. C'est absolument énorme. Et il y a le rituel du mercredi. C'est vrai que le mercredi, il y a plus de monde chez Action parce qu'il y a ces nouveaux produits qui arrivent.
C'est pas seulement les nouveaux produits. Le mercredi, c'est ils choisissent certains produits de leur gamme qu'ils mettent en avant encore moins cher. Et ça leur permet de faire tourner quand même un peu les stocks parce que c'est des arrivages de nouveautés mais qui ont parfois déjà été vendus 4 semaines avant. Voilà. Mais c'est vrai que le but, c'est que quand même quand les clients arrivent chez Action, quel que soit le moment où ils y reviennent, parfois ils y vont tous les jours, il faut toujours que ce soit nouveau parce qu'il faut les pousser à acheter.
Lidl actuellement va moins bien, perd de l'argent et perd des parts de marché. Il faisait venir des clients, pour rebondir à votre remarque, il faisait venir des clients sur des produits non alimentaires. Leur seul problème, c'est que ce n'est plus devenu essentiel pour des Français, donc ils ne sont plus prêts, même si une perceuse, un tournevis ou un marteau coûte moins cher, ils ne vont plus se déplacer parce qu'ils font se dire « je n'en ai pas besoin ». Et donc le produit qui était un produit attractif quand tout allait bien, a perdu de l'attractivité et la fréquentation a baissé.
Jean-Laurent Casselli.
C'est vrai, mais je voulais juste faire remarquer que dans l'alimentaire avec Lidl et le non-alimentaire avec Action, on est rentré dans une culture du discount dans la mesure où ce sont les enseignes dont tout le monde parle, qui sont au centre du jeu. eux et qui sont même, je dirais, devenus désirables. Parce que c'est vrai que ça fait 30-40 ans qu'on parle du discount. Je relisais un livre là, de marketing des années 90 où il était déjà question des bourgeois qui vont dans le discount. Donc, c'est des discours qu'on entend depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus que la normalité, c'est de la désirabilité. On le voit avec ce que la stratégie Lidl dont vous avez parlé, de faire un peu comme les marques de luxe et de mode, des drops. C'est-à-dire des petites collections resserrées, très événementialisées. Et puis, on le voit.
On se rappelle des fameuses baskets.
Les baskets Lidl, voilà, Lidl, des baskets Lidl qui avaient flambé sur le bon coin. Et puis, je pense à Action qui a réussi à se rendre glamour avec ses youtubeuses qui font des retours de courses.
On va y revenir. On va en parler. Ouais. On va y revenir tout à l'heure. Lionel Mauguin de 60 millions de consommateurs.
Oui, alors Action, qu'est-ce que ça vaut les produits qu'ils vendent? On en teste quand même de temps en temps. Et personne va être surpris, ben voilà, ça vaut pas grand-chose comme le prix affiché. C'est-à-dire qu'un des produits les plus vendus, c'est les écouteurs. L'écouteur, il a une durée de vie quand même qui n'est pas longue par rapport à ses concurrents quand on fait des tests comparatifs. Et après, bon, les clients ne sont pas dupes. Ils imaginent qu'un écouteur à 2-3 euros, il ne va pas durer comme un écouteur à 20, 30 ou 300 euros, puisqu'il y en a. Par conséquent... Personne n'est dupe, ni de la qualité des produits, ni des conditions dans lesquelles travaillent peut-être les gens chez Action, et surtout les fournisseurs.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous appelez de Saint-Étienne.
Oui.
Et vous travaillez dans le secteur industriel, hein, c'est ça?
Oui, je travaille dans le secteur industriel. Alors, je ne travaille pas avec la grande distribution, mais néanmoins, je travaille avec des transporteurs, des personnes qui font aussi des emballages, je travaille avec différents... service. Et aujourd'hui, je suis cliente très exceptionnelle de chez Action et j'évite d'y aller parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est que je n'arrive pas à comprendre le coût des produits, parce que quand on fait la somme du transport, de l'emballage, de la matière première, des différentes personnes qui ont touché les produits, ne serait-ce que les gens qui travaillent chez Action et dans la chaîne française, il y a quelque chose qui ne va pas, la somme de tous ces coûts ne va pas sur le prix.
Réponse de Nathalie Gros, et c'est une très très bonne question, Sophie. Tout d'abord, les coûts de fonctionnement sont optimisés, votre reportage le montre très bien, tout est standardisé au millimètre près, ça commence dès la conception des magasins. Hein ?
Oui, alors effectivement, dans cette chasse aux centimes, pour proposer un prix très bas, bon, le critère numéro un de ces prix très bas, hein, Sophie, c'est les achats en énorme quantité, puisqu'ils ont aujourd'hui 2918 magasins en Europe. Donc, ils n'achètent jamais pour un magasin. Donc, évidemment, tout cela fait que les coûts sont divisés, évidemment. Mais c'est vrai que...
Il n'y a pas de petites économies, par exemple. Il n'y a pas de musique pour ne pas payer de droits à la SACEM, par exemple.
Et si vous allez dans un magasin Action dans le nord de la France et que 3 jours plus tard, vous êtes dans le sud et que vous allez dans un autre magasin, vous aurez l'impression d'être au même endroit. Et les étagères sont les mêmes, tout est exactement identique.
Standardisé.
Et les conditions de travail aussi ont subi ce même brainstorm, on va dire, pour effectivement la chasse au moindre centime, pour économiser le moindre centime, c'est aussi la chasse au temps mort.
On va y revenir.
Et voilà, donc en fait, il y a quand même des bribes d'explications pour expliquer comment ils font pour être moins chers qu'ailleurs.
Yves Puget de LSA.
Oui, c'est de l'industrialisation du commerce. D'abord, ils sont d'abord allés en périphérie, donc le coût immobilier est moins cher, et la location du lieu est importante.
Ils n'ont rien inventé chez Action.
Ils ont rien. Je vous donne un exemple historique dans le discount et le hard discount, c'est la longueur du tapis de caisse arrière. Si vous mettez un tapis de caisse court, les clients sont obligés de se presser. Ça veut dire que le rythme de la caissière va être augmenté. Si vous mettez un tapis caisse long, le client va prendre du temps et dans ces cas-là, vous baissez la productivité.
Ah, j'ai pas pensé à ça.
Il y a plein d'exemples comme ça. Oui, c'est de l'industrialisation du commerce. La masse salariale dans un hypermarché, on va dire que c'est 12% en moyenne. Dans ces magasins-là, c'est plutôt autour de 5-6%. Donc oui, c'est de l'industrialisation.
Lionel Mauguin.
Reste à savoir si Action est moins 10 ans par rapport aux autres enseignes. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des enquêtes sur les conditions de travail, y compris des fournisseurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un comparatif. Est-ce que c'est pire qu'ailleurs? Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les mois qui viennent. On va faire un comparatif sur les critères sociaux et environnementaux des enseignes pour que donner les informations, et les gens iront où ils vont, où ils veulent. Mais c'est vrai que cette dame a raison. Il y a aussi un besoin de savoir. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas dans le magasin, mais les conditions de travail de ces gens-là... comment ils se fournissent? Est-ce que c'est, comme vous dites, des esclaves qui travaillent pour eux? Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, mais au moins, on sera conscient. Et il y a véritablement une grosse demande des consommateurs sur ces questions-là, et on s'y attaque prochainement.
Tiens, écoutons un nouvel extrait de complément d'enquête.
En rejoignant Action, certains n'auraient jamais imaginé perdre à ce point le sourire. Nous avons rendez-vous avec des salariés d'Action, plus écœurés que passionnés. Ils décrivent le travail chez Action comme leur pire expérience professionnelle.
En fait, regardez, par exemple, là, ça, c'était le rayon des sous-vêtements enfants, voilà. Et moi, avant de faire ma mise en rayon, je devais ranger tout ça par prix, par taille et tout. Et après, faire ma mise en rayon. D'abord, je dois ranger et après, je dois faire ma mise en rayon.
Et ça, ce temps de rangement, il était pas pris en compte?
Avec tout ce travail, me rajouter du travail. Je vais en caisse entre 11h et 14h. À 14h, je forme les nouveaux. Et moi, tout ça, ça s'accumule. Et après, je me fais engueuler.
En fait, c'est de l'esclavage moderne. Pourquoi maintenant, nous, on doit faire le travail de deux ou de trois personnes? Ils n'ont qu'à embaucher ou prendre en intérim. En fait, ils font leur pub sur « Regardez, c'est pas cher, venez, on propose plein de choses. » Il y a toujours, chaque semaine, il y a des nouveautés, il y a des promotions. Mais au final, c'est nous qui en pâtissons.
Extrait de complément d'enquête diffusé en décembre dernier. Alors, l'idée ce matin, c'est de ne pas faire le procès d'Action. Et c'est de se demander si cette obsession pour la productivité des salariés est commune à tous ces discounters non alimentaires ou pas. Vous êtes allé chez Action pour constater tout de même des cadences infernales. Et tout est minuté, quasiment à la seconde près, selon un algorithme précis.
Oui, oui. Je tiens à dire justement que c'était également notre souhait avec Blanche Lacroix qui a co-réalisé cette enquête de ne pas faire le procès d'Action et de ne pas non plus être dans la culpabilisation, ouais, bien sûr, des personnes qui font leurs courses. On a des indicateurs qui permettent d'avoir une petite idée si c'est pire qu'ailleurs. Et la réponse est oui. Et par exemple, il y a des taux de cotisation auxquels les entreprises sont soumises par rapport aux accidents, au nombre d'accidents du travail ou de taux de maladie professionnelle qui est plus élevé que dans les autres enseignes du même secteur, etc. Donc par rapport à ça, on peut savoir que quand même, oui, ces petits prix ont un prix et que les personnes qui travaillent dans les rayons le payent. Cette organisation du travail ultra minutée, elle est visible, hein, elle se manifeste concrètement dans la réserve du magasin, dans la salle de cantine. Il y a ce qu'on appelle un whiteboard dont ils sont très fiers.
C'est quoi ça, le whiteboard ?
Ce whiteboard, donc, c'est un tableau blanc où en fait vous avez le nom de chaque employé en colonne verticale. À l'horizontale, vous avez les minutes de la journée qui déroulent. Des petits aimants de couleur pour attribuer à chacun dans sa journée ses tâches. Et donc, il n'y a aucun temps mort, à tel point qu'ils ont chacun une oreillette. Vous ne l'avez pas forcément remarqué quand vous êtes allé dans les rayons d'Action, mais les vendeurs ont une oreillette sur l'oreille et qui, en fait, est branchée en permanence. Ils entendent, tout le monde entend tout le temps. Mmh. Et c'est info prix à tel endroit, ouverture caisse, fermeture de caisse. Et c'est de l'ultra polyvalence, c'est-à-dire qu'en fait... Il faut tout le temps courir pour ouvrir une caisse quand il y a un client qui attend, parce que ça, c'est pas possible. Ensuite, il faut aller ranger le zwerf, comme ils appellent ça. Donc, c'est un mot néerlandais, le zwerf.
Ça
veut dire le bazar. Et ça, c'est le cauchemar de tous les vendeurs d'Action. Enfin, voilà, je pourrais dérouler toutes les tâches qu'ils ont à faire tout le temps et vous sentiriez déjà oppressé.
Signalons un gros turnover des effectifs sur certains sites. Par exemple, dans la région centre, en 2023, le taux était de 71,4%, ça veut dire que 7 salariés sur 10 ont quitté leur poste dans l'année. Dans la région ouest, ce taux de turnover atteindrait 80%, 8 salariés sur 10 qui auront quitté leur poste à la fin 2024. Autour de la table, réaction, Yves Puget de LSA.
Turnover, juste comme anecdote, Walmart, qui est le leader mondial américain, 2 millions de salariés, 50% de turnover. Mmh. Après, il y a du bon et du mauvais turnover, c'est aussi parce que ce sont des jobs, notamment pour des jeunes, etc. Donc il faudrait aller plus finement dans l'étude du turnover. Après, moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que Action respecte la législation française? Si la réponse est non, il faut les condamner et je suis archi pour. Et après, de temps en temps, je trouve que c'est un peu simple de venir de Paris et découvrir que la vie dans les magasins n'est pas toujours simple. Elle n'est pas toujours simple dans les usines non plus. Elle n'est pas toujours simple pour des millions d'artisans en France. Oui, c'est souvent compliqué. Oui, il y a des questions de productivité. Ce qui importe, c'est effectivement... Est-ce que la législation est respectée? Et puis après, il y a quand même encore, je dis encore, je ne sais même pas si c'est le bon qualificatif, il y a quand même des écarts entre les enseignes, effectivement, de conditions sociales.
Benoît Lebrun.
Mais en fait, je suis pas sûr que ça soit pire que chez McDonald's ou dans un entrepôt. Exactement. Amazon. Donc, c'est pas une question simplement d'action. C'est la question de notre rapport au travail. Quand on saccage la valeur d'un marchandise, on saccage la valeur du travail. Donc, le rapport à la consommation, il est lié à notre rapport au travail. Et là, en fait, on est en train d'appliquer les principes du management définis dans les années 1920, c'est-à-dire de rendre efficientes les relations de travail. J'ai pas dit efficace, efficiente. C'est-à-dire que c'est less is more, c'est-à-dire je vais essayer de diminuer au maximum les ressources consommées. Donc ça veut dire que le travail devient un produit, devient une marchandise. Et la preuve, c'est que chez Action, on a à la caisse des petites affichettes qui font la promotion, enfin qui essayent de séduire des jeunes pour venir travailler chez Action. Donc en fait, on vend du travail comme on vend du gel douche.
Less is more, c'est moins.
Less is more, c'est moins pour plus.
Voilà, c'est ça.
Moins pour plus.
Monsieur Mauguin.
Oui, c'est très important, ces questions-là. Et là, on voit bien que... Non, mais on a besoin d'informations. C'est-à-dire, par enseigne, et c'est ce qu'on va faire, sans vouloir faire de pub, on va publier le taux d'accident du travail par enseigne. On va publier les salaires par enseigne. On va publier, alors là, je le dévoile, je ne devrais peut-être pas, mais c'est chez vous. Parce qu'il y a un besoin d'information. Est-ce que c'est pire chez Lidl? On ne sait pas. Donc là, on saura. Est-ce que c'est pire chez Leclerc? On va avoir ces données, parce qu'il y a beaucoup d'ONG, notamment, que ça importe, ces questions-là. Nous, on n'est plus simplement dans le test des produits, mais on est aussi dans l'évaluation des producteurs, des distributeurs, sur ces critères-là, parce que les consommateurs le demandent. Et aussi la contribution au réchauffement climatique, etc. Ces critères, on donnera ces informations, mais on voit bien qu'on tourne autour. Là.
Allez, il est 10h44, l'heure de retrouver les Français Mode d'emploi, avec Jean-Laurent Casselli, fondateur de la Maison Casselli.
Regardez seulement, regardez.
Ouais.
C'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée, c'est en français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors ce matin, Jean-Laurent, vous nous parlez de l'avenir des bars et des cafés.
Oui, et pour cela, Ali, je vais demander à tout le monde de faire un petit exercice de mentalisation et donc de fermer les yeux. Ce n'est pas une chronique de Christophe André, hein. Mais imaginez donc une rue dans une ville quelque part en France, peut-être dans l'Ouest ou dans le Nord. Dans cette rue commerçante, il y a un bar d'angle qui s'appelle le Balto, peut-être le Braza ou le Narval. Les clients y prennent leur petit café noir le matin avant d'aller au boulot. Ils croisent des éboueurs qui terminent leur tournée. On y fait un loto, on joue au PMU. À midi, tous ceux qui bossent dans le coin s'y attablent pour le menu à 14 euros. Et puis en fin de journée, aller à partir de 17h vient le moment de l'apéro. Voilà, alors dans la vraie vie, l'ambiance du Balto, elle ressemble pas toujours à mon tableau idéal façon Amélie Poulain ou partie de carte de Pagnol. Déjà, la déco, elle a pas toujours été repensée. Hein. Petite astuce, le sol, c'est un peu le carbone 14 du bar tabac. S'il y a du carrelage, c'est qu'il est resté dans son jus années 80-90. Et puis, surtout, depuis quelques temps, dans la même rue, un petit coffee shop est apparu juste à côté, ouvert par des jeunes qui reviennent d'une expérience à l'étranger. Ce café élégant et moderne séduit les étudiants, les mamans, les télétravailleurs à la recherche d'ambiance et de Wi-Fi. Conséquence, notre bon vieux Balto, lui, c'est un peu devenu le lieu refuge, le safe space de la France populaire. On observe un petit peu partout, surtout en milieu urbain, un rétrécissement de la base sociale de la clientèle de ces lieux. Le bar populaire qui était jadis au centre de nos vies est en voie de relégation symbolique. Il a perdu en quelque sorte le monopole du café. Alors d'abord à cause de Georges Clooney, hein, puisque les Français se sont équipés à domicile en machine à espresso, à dosette ou à capsule, et puis à cause de ce phénomène de coffee shopisation de la France. Chez Zoua, le résumé d'une formule de nos jours, non seulement on ne boit plus le même café, mais on ne le prend plus au même endroit.
Alors Jean-Laurent, peut-on réconcilier les habitués du Balto et les clients du coffee shop ?
Bien, il le faut, Ali, et j'ai des solutions pour sortir de ce que j'appellerais une forme d'archipélisation bistrotière ou caféicole. Alors, je vous rassure, mon programme, c'est pas Make le Balto Great Again. C'est pas de nous renvoyer tous dans les films français des années 80, lorsque tout le monde picolait et fumait au comptoir. La société a évolué, les clients également. Le monde du café, celui des buralistes, s'est pris en pleine gueule cette concurrence nouvelle. C'est pas forcément un mal, puisqu'on voit apparaître une génération de commerçants qui, tout en conservant les bons aspects du café à la française, à commencer par leur ambiance, élabore une nouvelle carte de bois, on propose des services, notamment dans les tabacs, mise aussi sur la restauration, que ces lieux avaient pour beaucoup abandonné. Et puis, il y a des signaux faibles d'un retour en grâce de nos bars et cafés. Les jeunes aiment ce côté un peu accidentellement vintage de certains bars PMU. Les photographes, les artistes s'emparent de ce lieu symbole. Leur capital sympathie reste immense, y compris, je le constate autour de moi, de la part de ceux qui ne les fréquentent pas ou plus. Et au passage, si vous avez peur qu'une vague de gentrification ne s'abatte sur nos bars tabac populaires, je peux vous rassurer, tout tout de suite et vous fournir une très longue liste d'adresses de Balto, pas gentrifiées, mais alors pas du tout, du tout.
Je pourrais vous en fournir également. Pour terminer, quelques conseils de lecture, Jean-Laurent Casselli, pour approfondir sa connaissance des Balto.
Oui Alice, si j'ai l'air aussi bien renseigné, c'est pas uniquement parce que je passe ma vie au Balto moi-même, c'est parce qu'on publie chez Maison Casselli une étude sur le sujet, c'est la toute première de notre histoire, ça s'appelle La France des Bar-Tabac, et cette étude est en libre accès sur le site maisoncasselli.fr. Et puis nos camarades de la fondation Jean Jaurès et de l'IFOP publient de leur côté une autre étude sur la France des bars PMU. Alors vous l'avez compris, les bars-tabac, les cafés populaires, les PMU, ce sont des réseaux qui sont en partie, qui s'entrecroisent hein, avec des problématiques qui elles-mêmes se rejoignent. Et puis pour être complet, mentionnons le petit guide fooding en collaboration avec PMU qui est paru en novembre dernier, les 100 bars qui font la France, avec donc des adresses retenues pour leur cuisine, leur ambiance, leur déco ou la personnalité de leur taulier.
Make the Balto great again. Je retiens cette formule. Jean-Laurent Casselli, tous les épisodes des Français Mode d'emploi sont à podcaster sur l'appli Radio France.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et on continue à explorer le succès des discounters non alimentaires, hein, comme Action, BM, Normal, Stockomanie. N'hésitez pas à nous appeler ou à témoigner au 01 45 24 7000. Et nous avons une question d'Alice. Bonjour Alice.
Bonjour.
Stagiaire de 3e en ce moment à Radio France. Et donc, tu écoutais l'émission en régie et tu as une question à nous inviter. Et j'espère qu'ils seront à la hauteur de ta question.
Du coup, vous avez parlé de Normal, enfin vous avez surtout parlé d'Action, mais j'avais une question sur Normal. Du coup, on voit quand on rentre dans le magasin que les rayons ils sont organisés un peu comme un chemin où on doit, ça nous mène directement à la caisse, on peut pas trop sortir. Et du coup, est-ce que ça contribue au fait que du coup on veuille acheter le, enfin un peu le maximum ?
Excellente question.
C'est un vieux principe du commerce. IKEA a été fait comme ça à l'origine. Ça t'oblige, si tu veux Alice, à passer devant tous les produits. Donc tu ne peux rien manquer parce que le risque, si tu viens juste pour un petit, on va dire un shampoing, c'est que tu prennes ton shampoing et que tu repartes et tu ne regardes pas le reste du magasin. Là, ça t'oblige à faire tout le magasin.
Elle a raison, parce qu'on se demande presque si on a le droit de faire machine arrière, si on peut aller où on veut.
Il y en a pour essayer, ils ont eu des problèmes. Moi j'ai une question à Alice, parce que chez Normal, et chez Action aussi, mais beaucoup chez Normal, il y a des influenceurs qui ont pour principale activité d'aller chez Normal, de trouver des produits marrants et de les découvrir, de les tester en direct, en vidéo. Est-ce que toi, tu regardes ça et qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, moi je, regardais, moi, je regarde ça. Mais en vrai, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est parce que les gens, ils testent un peu pour toi les produits et ils disent si vraiment ça vaut la peine ou pas. Du coup, après, je pense que même si on voit ça, on va quand même les acheter parce que même si ça ne marche pas, on veut essayer.
Et d'ailleurs, l'influenceuse qu'on interview au début du sujet de complément d'enquête, pour rebondir sur ce que tu dis, Alice, elle explique qu'elle rend service à sa communauté puisque quand elle teste quelque chose, elle va tester toutes les teintes, par exemple, d'un produit et elle va pouvoir dire celle-là, ça ne vaut pas le coup. Et donc, elle va permettre de faire des économies à sa communauté.
Merci beaucoup Alice.
Merci.
Tu étais dans quel collège ton collège, il est où ton collège ?
À l'EIB, dans le parc Monceau, dans le 17e.
Eh bien, très bien, merci beaucoup. Une future journaliste qui prendra ma place dans quelques années avec ses questions très pertinentes. Bonjour Cyrine Benyounès.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et attachée de production dans cette émission et vous avez eu envie de mettre votre grain de sel dans cette émission. Et vous avez quelque chose à nous avouer.
Oui, Ali, j'avoue, j'ai un plaisir coupable, on vient un peu de le mentionner, les vidéos de haul sur YouTube le soir avant de m'endormir.
C'est quoi un haul ?
Un haul ?
H-A-U-L.
Oui, un haul, butin en anglais, c'est ça.
Là, je vous le dis, j'ai dévalisé Action. Je vous montre ça, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a ça aussi, ça, et ça, c'est bon. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier haul Action de l'année 2025. Et il était temps, parce que comment vous dire que j'ai dévalisé le magasin ?
Ça, c'est l'influenceuse Missou Makeup, 1,36 million d'abonnés sur YouTube, qui déballe fièrement avec ses nouvelles trouvailles achetées chez Action. Deux cabas pleins à craquer d'objets de déco, de loisirs créatifs et de maquillage à tout petit prix, moins de 10 euros. Et si tous les soirs je m'extasie avec Missou Makeup sur ses nouveaux achats, c'est pour compenser un manque, je ne vais plus chez Action, enfin j'essaye. Les raisons les plus évidentes, ce sont bien sûr les raisons écologiques et de droits humains, on l'a dit. Ce genre d'enseigne perpétue et glorifie la production de masse de produits bon marché, acheminés jusqu'à nous par des transports polluants et des conditions de travail déplorables, à la fois dans les usines de fabrication, mais aussi en magasin. Et en étant bien consciente de tout cela, j'éprouve tout de même une certaine nostalgie, j'avoue, quand je repense à toutes ces déambulations insouciantes dans les allées du magasin bleu et blanc, à la recherche de choses dont je n'ai pas besoin, mais qui me ravissent sur le moment, persuadée de faire l'affaire du siècle. Après tout, on n'a jamais assez de plaid tout doux et de bougies à la cannelle, non ?
C'est vrai.
Et voilà, je retombe dans mes travers, satanée action. Bref, si je regarde autant de hauls, c'est pour être moins tentée de consommer, en vivant par procuration les joies du shopping. Mais au final, est-ce vraiment plus responsable ? Malgré mes ambitions, je n'arrive toujours pas à me détacher de cette fascination pour ces produits toujours plus beaux et abordables. Et je finis par les financer malgré tout, à travers mon engagement en ligne. Alors, Benoît Albrun, question pour vous. Expliquez-moi pourquoi j'ai autant envie d'aller acheter tout et n'importe quoi à Action, au point de devoir compenser par des vidéos.
Bah parce qu'en fait, vous avez lâché le mot, c'est le mot fascination. Fascination, c'est à la fois l'attraction et la répulsion. Et en fait, c'est tout notre rapport à la marchandise. C'est-à-dire que la marchandise, elle est absolument fascinante, hein, mais en même temps, elle a un côté pervers. Je crois qu'hier, il y avait une émission sur pourquoi est-on fasciné par le mal. Bah, de la même façon, on est fasciné par la marchandise, parce que c'est un monde de la nouveauté, du spectacle, de l'extraordinaire, mais aussi c'est la vie ordinaire, celle de la nécessité.
Yves Puget ?
Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je ne crois pas au phénomène de déconsommation. Mmh. L'être humain est fait pour consommer. Consommer mieux, consommer autrement, ça certainement. Consommer responsable, oui, trois fois oui, mais l'être humain il est fait pour consommer, donc je ne crois pas à la déconsommation.
Lionel Mauguin ?
Non mais c'est super ce que vous venez de dire, parce que c'est vraiment le paradoxe du consommateur qui éprouve du plaisir, évidemment, oui. Depuis toujours. Quand on a un coup de mou, qu'est-ce qu'on fait ? On va lâcher un truc qui nous fait plaisir. Puis en même temps, il doit avoir conscience de ses achats. Et c'est pour ça qu'on est là, pour donner le maximum d'informations sur les conditions de production et de vente de ces produits.
Merci beaucoup, Cyrine Ben-Younès, pour votre grain de sel. Pour terminer, allez, en quelques mots, quelle est la qualité de la plupart des objets que l'on retrouve chez Action, Stockomanie, Normal ? Sont-ils fiables ? Qu'est-ce qu'on en sait, Lionel Mauguin, de 60 millions de consommateurs ?
Bon, on n'en sait pas toujours grand-chose parce que c'est très...
Il y a de tout,
beaucoup.
En fait.
Il y a de tout, voilà. Oui. Et puis, c'est des enseignes très différentes. Stockomanie, c'est des grandes marques qui sont déstockées. Oui. Donc, les gens, ils viennent pour les grandes marques, notamment de textiles. Après, il y a des grandes marques aussi de produits de grande consommation chez Action. Et donc, là, on les connaît. Donc, en fait, il y a une forme de choix sur 6000 références qui fait qu'il y a des produits qui valent pas tripette, puis d'autres qui peuvent être intéressants.
Yves Puget.
Et oui, les grandes marques sont les mêmes que dans les autres magasins. Et après, oui, une petite boîte en plastique pour ranger des produits, est-ce qu'elle est plus ou moins responsable que dans une autre enseigne ? J'avoue que je suis incapable de le dire.
Par rapport à cette question, nous, c'était vraiment aussi, pour complément d'enquête, on voulait vraiment avoir une idée justement de ce que valaient ces produits à ce prix-là. Et sachez qu'on s'est approché de tous les grands labos de tests pour qu'ils travaillent avec nous en les payant comme des clients ordinaires, et tous ont dit non quand même. Donc c'est une info qui est extrêmement difficile à obtenir.
Merci beaucoup Lionel Mauguin de 60 millions de consommateurs. Un mot sur la vente de 60 millions de consommateurs.
Merci Ali, effectivement le gouvernement a décidé de mettre en vente 60 millions de consommateurs qui est édité par un établissement public. Il y a une levée de bouclier des associations de consommateurs et des citoyens, puisqu'il y a une
pourquoi
pétition.
Pourquoi vendre 60 millions de consommateurs ?
Pourquoi vendre 60 millions de consommateurs alors qu'on est sur une phase de rééquilibrage de nos comptes ? Donc, merci de nous donner l'occasion d'interpeller M. Lombard pour qu'il change cette décision.
Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances. Indispensable, 60 millions de consommateurs. Indispensable également, LSA.
Merci. Totalement indispensable.
Yves Puget, directeur de la rédaction de ce magazine. Et merci également Benoît Elbrun. Ce que nous cache le mythe du pouvoir d'achat, c'est publié aux éditions de l'Aube. Et merci Nathalie Gros. Votre complément d'enquête sur la chaîne de magasins Action est à retrouver sur la plateforme France Télévisions.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.